philosophie du vivant, Père Philippe, 27 octobre 1983 à Saint-Joseph.
Je vous ai situé rapidement le problème de la philosophie du vivant. Et je vous ai dit que nous allions continuer ce que nous avions vu l'année dernière. Alors je vous rappelle quand même que la philosophie du vivant a comme premier problème, et je crois que c'est quand même très important, parce que c'est là où on situe tout de suite la différence entre la philosophie du vivant et le point de vue de la biologie. Il y a un traité du vivant qui vient de paraître chez Fayard. Je ne l'ai pas ici. Ce serait peut-être intéressant d'essayer de se le procurer. Je donnerai la référence exacte. C'est un peu comme, je vous disais, ce traité sur l'homme neuronal. C'est sûrement des choses intéressantes à voir. Parce qu'on sent qu'il y a actuellement, à la suite de Mono, toute une équipe de biologistes qui veulent passer des recherches biologiques à la vision de l'homme. C'était déjà chez Monod. Monod avait fait le passage entre la biologie et l'éducation. Monod avait dit dans les rencontres internationales que éduquer un chat ou éduquer un enfant, c'était la même chose. Alors évidemment, ça avait fait un peu bondir. Mais il avait dit que toute éducation était à base des recherches scientifiques biologiques. Qu'une éthique ne pouvait pas exister en dehors de la science biologique. Donc c'était déjà posé le principe qu'une philosophie du vivant est dans la ligne d'une biologie. Donc là, il y a un problème très grave devant lequel on doit essayer de réfléchir. Parce que si nous faisons de la philosophie, vous comprenez bien, c'est pas faire de la philosophie en chambre. On fait de la philosophie pour notre monde d'aujourd'hui. Pour nous et pour notre monde d'aujourd'hui. Alors nous devons être attentifs à ces montées qui se font. Et je vois très, très bien comment ça doit se faire. Et ce serait intéressant, ça. C'est très intéressant, mais même, je crois que la petite revue que nous devons avoir à la suite du bulletin de camp doit servir à cela. Ce sont ces livres-là que nous devrions essayer de comprendre et puis de répondre astucieusement, avec intelligence. Le problème de la biologie, de la psychologie on le verra à propos justement des patients, mais le problème de la biologie, c'est directement ce problème de voir comment le philosophe, quand il est en face de l'homme, doit essayer de comprendre que l'homme ne peut pas se comprendre sans la saisie de l'âme. Mais un biologiste ne parle pas de l'âme. Je me souviens de cette réaction très violente, mais qui était bonne, de ce biologiste qui venait de Genève et qui était un Espagnol, un grand d'Espagne, de la famille des Guzmán, donc de Saint-Dominique, c'était beau de retrouver là, et quand il avait assisté à un séminaire à Fribourg sur le De Anima, où Aristote dit textuellement, il faut comprendre ce que ça veut dire, que le tuti est deinai, du vivant se comprend par l'âme. L'âme est le toti enainai du vivant. Toti enainai, vous voyez, quiddité. Donc, source d'intelligibilité. Alors, après le séminaire, il m'a dit alors, mon père, qu'est-ce que c'est que la biologie qui ne parle pas de l'âme et nous voulons connaître le vivant? Et la question était très bien posée. En effet, cela, et face à tous ces livres qui veulent nous donner une vision de l'homme, parce qu'ils disent homme neuronal, c'est équivoque au sens le plus fort qui soit. C'est faux comme titre. On n'a pas le droit de dire ça. L'homme, je ne peux en parler qu'à partir de l'âme. Je ne peux pas en parler uniquement au niveau biologique. Je pourrais dire la morphologie de cet être vivant qui est l'homme. J'essaie d'étudier un aspect particulier de l'homme, mais pas l'homme neuronal. Fort comme titre. Et c'est très intéressant de voir ça, parce que ça devrait faire un scandale. Et ça ne le fait pas du tout. Tout le monde dit merveilleux ce livre, extraordinaire, étonnant. Il y a eu quand même une petite réaction, je vous l'ai dit ici, parce qu'elle est sympathique. Et j'ai vu le problème, parce que c'était quand j'étais à la péniche de l'Emmanuel l'autre jour, où il y a un petit groupe, n'est-ce pas, un petit groupe de savants qui ont été marqués par le renouveau et qui comprennent qu'il y a un problème. Que les savants aujourd'hui sont positivistes, ils sont convertis, ils ne sont pas philosophes. Alors c'est pour ça qu'on discute ensemble, c'est très intéressant, parce qu'il y a un petit laboratoire. Si on peut avoir ce laboratoire ici, entre nous, ce serait merveilleux, parce que c'est, je crois, ces problèmes-là qui se posent. Alors, ils étaient très en émoi devant ça, parce que la secrétaire particulière de ce changeux, qui est l'auteur de ce livre, la secrétaire particulière de lui, dès qu'elle a lu le bouquin, est venue poser la question aux charismatiques. Je ne peux pas continuer d'être secrétaire de quelqu'un qui écrit un livre comme celui-là. Et alors, elle lui a écrit une lettre en lui disant, je donne ma démission. Dans un mois, je ne serai plus votre secrétaire. Or, ça fait un tollé. Cet homme qui aime sa secrétaire parce qu'elle est intelligente et qu'elle fait bien son métier et qu'elle le fait le mieux possible, elle dit, à cause de mon bouquin, voilà le fruit de mon bouquin, c'est que ma secrétaire me quitte. Elle dit, oui, je ne suis pas d'accord. Et vous dites des choses qu'un chrétien ne peut pas accepter. Moi, je n'accepte pas. Vous voyez la réaction, hein? C'est bien ça, sympathique comme réaction. Et ça, c'est le milieu charismatique. Hein? En dehors de ce milieu, je crois qu'il n'y aurait pas eu cette réaction. Ça, il faut reconnaître qu'il y a là quelque chose qui comprennent qu'il faut donner un témoignage chrétien et qu'on ne peut pas aider, collaborer à quelqu'un qui... Alors la grosse discussion a été pendant une heure, on a discuté pour savoir si elle avait bien fait de faire ce geste ou pas. C'était intéressant, c'est un cas de conscience, très très aigu. Et alors un des charismatiques qui est professeur du reste à Toulouse, à Bordeaux, je crois, qui est professeur à Bordeaux, professeur de physique, donc il réfléchit beaucoup sur les rapports entre la foi et le point de vue physique, et là, il a été avec elle voir le professeur en question pour lui faire comprendre qu'on peut collaborer au point de vue scientifique. C'est très vrai qu'on peut collaborer, même si un savant dit des choses qui lui sont personnelles, et parce qu'il fait des petites allusions, vous voyez, dans le livre, en disant, oui, les extases de Sainte-Thérèse, oui, ça s'explique.
L'homme neuronal.
Tout s'explique, hein. On peut tout expliquer. Alors vous voyez bien le scandale que ça peut faire, hein. Chez quelqu'un en disant, mais non, quoi, il y a deux différences, c'est pas la même chose, c'est pas le même phénomène, alors vous mettez le parallélisme entre les deux. Et c'est ça qui avait scandalisé. Autrement dit, un amalgame entre le point de vue des conclusions scientifiques et puis l'homme. C'est ça que nous devons saisir. Et ça, c'est un petit fait, mais c'est intéressant, il faut saisir les faits comme ça. Quand on est en présence de ça, tout reprend une acuité très grande. Je vais vous donner cet exemple, hein, que j'ai vécu, alors d'une façon tout à fait différente, mais qui est très intéressant de voir comment un scientifique peut, à partir de sa science, donner une certaine synthèse politique de la vie. Ce que disait le professeur Marois. Politique de la vie. Puis après, on demande aux philosophes, j'étais chargé de la fonction, de dire, que dit le philosophe ? Alors, le philosophe, lui, dit il n'a pas la méthode scientifique. Et il ne veut pas se servir de la méthode scientifique. Il respecte la science, mais il dit la science ne peut pas, par sa méthode, atteindre l'âme. Et tout le problème est là, au point de vue critique, et donc au point de vue situation de la biologie et de la philosophie du vivant. Ça, je crois que nous devons tous essayer de saisir ce problème-là, parce qu'il est capital, dans notre monde d'aujourd'hui. Autrement dit, sauver une philosophie du vivant. Et il y a beaucoup de répercussions dans cela. Vous voyez, je vous ai dit plus d'une fois que la théologie de l'Église ne peut se faire qu'en se servant, à travers la métaphysique, de cette science subalternée qui est la philosophie du vivant. La théologie de l'Église par la foi, par la métaphysique, par la philosophie première, assume la philosophie du vivant. Toujours, toutes les parties de la philosophie ne sont immédiatement reliées à la foi que par la philosophie première. Donc, les subalternations, d'une certaine manière, au point de vue critique, hein, de la philosophie du vivant par la philosophie première. Je ne peux pas immédiatement servir. La philosophie du vivant ne peut pas immédiatement servir la foi. Ça passe par l'intermédiaire de la philosophie première. L'intuition du père Condard est très juste, il faut lui reconnaître. La philosophie de l'Église doit emprunter le point de vue du vivant. Mais l'erreur, c'est qu'à la place d'une philosophie du vivant qui est assumable immédiatement par la philosophie première, il prend la Jésus. Alors vous voyez comme c'est délicat. Il y a le niveau d'intelligibilité de la biologie, de la science biologique. Il y a le niveau d'intelligibilité de la philosophie du vivant. Il y a le niveau de l'intelligibilité de la philosophie première. Les trois degrés. Alors, je vous donne une petite conclusion et vous comprendrez tout de suite. Le père Condard, dans son livre sur la théologie du laïcat, il avait fait ça a paru à un moment donné, ça a fait à ce moment-là, partout on trouvait la théologie du laïcat, jusque dans les trappes. C'était tout à fait le livre qu'il fallait. Et c'était dit, vous voyez, en vue d'une théologie d'Église. Le père Condard avait énoncé tous les livres qu'il fallait pour une théologie d'Église. Et puis alors il a donné le Benjamin, le dernier, tout de suite, en premier lieu. Donc c'était là où on devait saisir ce qu'il y avait. J'étais au seul foire à ce moment-là, j'étais donc avec le père Condard, mais ce n'était pas très commode comme situation. Je ne pouvais pas faire la critique, mais je l'ai lu attentivement, du début jusqu'à la fin, pour essayer de comprendre l'erreur sous-jacente. Et elle était très visible, quand on lit avec attentivement, on essaie d'étudier cela. Le père Condard dit, la philosophie du vivant, la philosophie du vivant, c'est la philosophie du vivant. C'est la théologie du vivant, c'est le vivant, on est tout à fait d'accord, puisque le Christ c'est le vivant et l'Église est le vivant. La vie est périphérique. Alors vous voyez la conclusion. L'Église ne vit qu'en périphérie. Donc où je dois découvrir la vitalité la plus grande de l'Église, c'est dans la périphérie. C'est-à-dire là où l'Église est en contact avec les païens, là où l'Église est l'Église qui convertit. Moi, je dirais, la vie apostolique de l'Église doit toujours impliquer un regard périphérique. Mais on ne peut pas dire que la vie de l'Église est périphérique. Alors vous voyez tout de suite les conséquences liturgiques. À la place de dire le fameux antienne des docteurs, c'était immédio ecclésie. Transformé, impériphérie ecclésiée, n'est-ce pas? Alors ça fait tout de suite la différence. Alors on voit tout de suite les deux différences qu'il y a entre eux. C'est très important, ça n'a l'air de rien, mais si vous y réfléchirez, si vous y réfléchissez, vous voyez tout de suite la conséquence. En réalité, au point de vue biologique, on peut dire les manifestations de la vie sont périphériques. C'est sûr. Les manifestations de la vie se manifeste toujours d'une façon périphérique. Je ne peux pas dire de là, la vie est périphérique. Je confonds manifestation et vie. La biologie ne dit pas ce que c'est que la vie. Elle ne parle que des manifestations de la vie, ce qui est mesurable que le vivant, uniquement le mesurable du vivant, pas plus. Le biologiste regarde uniquement le conditionnement du vivant, ce que je peux mesurer, les réactions du vivant. Et j'essaie d'étudier ces réactions du vivant, ce qui apparaît, ce qui est mesurable. Or, la philosophie du vivant, elle, au contraire, essaie d'analyser le vivant pour saisir les causes du vivant. Le biologiste cherche les lois. Lisez le petit livre de Monod. Ça, c'est lisible, c'est très facile à lire, et c'est très intéressant, parce que là, il dit naïvement, de façon extraordinaire, ce que c'est que le vivant pour lui. Et vous voyez qu'au fond, il définit le vivant par la notion générique. Donc, il y a la confusion entre ce que c'est que la notion générique et le principe. Le genre, vous le verrez en logique, le genre, c'est un prédicat. Le genre, c'est une saisie, une notion tout à fait fondamentale, mais qui se prend du côté de la matière. Et donc, je ne peux pas définir la vie par le point de vue du genre. C'est quelque chose... Ça fait c'est un élément, mais ce n'est pas ça qui me donne le point de vue de la vie. Il faut que je cherche pour avoir une connaissance philosophique de la vie des principes et des causes. Je cherche la cause propre, voilà ce que je cherche. Alors c'est toute la différence qui existe entre la loi et la cause. Le biologiste essaie de donner des lois du comportement du vivant. C'est vrai, ce sont les lois du comportement du vivant. Si j'étais précis, je devrais dire ça. Le biologiste saisit les lois du comportement du vivant, tandis que le philosophe essaie de saisir la cause propre du vivant. Et ayant saisi la cause propre du vivant, il dit que cette cause propre du vivant me donne l'intelligibilité propre du vivant, donc le toti et l'âme. Une fois que j'ai saisi l'âme, je saisis le principe propre du vivant. Ayant saisi le principe propre du vivant, je saisis bien l'intelligibilité propre du vivant. Oui, c'est ce que dit Aristote quand il dit que l'âme est le totienainal du vivant. Et le scandale du biologiste, c'est de dire, mais alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligibilité de la science biologique? C'est l'intelligibilité non pas du vivant comme tel, mais du comportement du vivant, des manifestations du vivant. De ce qui est mesurable dans le vivant. Ce n'est pas le vivant. Je ne peux pas mettre une adéquation entre la connaissance biologique et le vivant. C'est faux. Je ne connais qu'un aspect du vivant. Je respecte la biologie. Elle me fait connaître un aspect du vivant, mais elle ne me fait pas connaître le vivant. Le philosophe, lui, essaie de connaître le vivant au-delà de l'apparition, le mythe de la caverne. De Platon, c'est toujours, mais c'est très actuel. Le mythe de la caverne nous fait comprendre que les gens confondent ce qui apparaît et la réalité. Si vous identifiez le mesurable, ce qui apparaît, ce qui est mesurable, et la réalité, vous êtes aveugle. Vous êtes bon. Et vous êtes dans le positivisme, parce que le positivisme, c'est justement cela. C'est de dire que seul la connaissance du mesurable des sciences positives sont la seule connaissance qui existe. Donc, voyez bien ce qu'il faut maintenir. Hein. C'est ce passage-là. Donc, le grand problème, premier, pour établir la philosophie du vivant, c'est d'essayer de découvrir la cause propre du vivant. Or, nous avons dit que le vivant ne peut s'étudier que par rapport à l'homme. Je ne peux pas étudier le vivant par rapport à la grenouille. Si gentil, si sympathique que soit la grenouille. Je ne peux pas connaître la vie de la grenouille. Je la vois de l'extérieur. Je peux la mimer. Oui, ça c'est facile. Je peux la mimer, donc je peux essayer de comprendre les réactions d'une grenouille. C'est intéressant. Mais ce n'est pas plus. Pas plus. Je peux dire que la grenouille réagit autrement que le chat. Vous mettez le chat en face de moi, ça fait un beau dialogue de ces deux vivants, c'est très très cru à voir comme dialogue. Mais je ne peux pas dire plus, les réactions sont différentes. J'essaie, en tant que philosophe, de saisir la cause propre. Or, je ne peux saisir la cause propre du vivant qu'à partir de l'homme, en réfléchissant sur ma propre vie. Donc, le premier problème de la philosophie du vivant, c'est de découvrir la cause propre du vivant à partir de l'homme. La cause propre de ce vivant qui est l'homme. De ce vivant qui est l'homme. Alors, comment découvrir cette cause propre? Si je ne peux pas découvrir cette cause propre, il n'y a pas de philosophie du vivant. Je décris. Moi, je peux décrire indéfiniment. Dans la caverne, je peux décrire. Je peux décrire tous les vivants qui sont là, vous voyez. Le laboratoire merveilleux du vivant, c'est une communauté religieuse, c'est un laboratoire extraordinaire. Et je peux me mettre à décrire, là, tous les vivants que je vois, n'est-ce pas ? Tous les vieux vivants et les jeunes vivants et qui vivent différemment et qui ont des réactions différentes, qui ont des analogues au chat, analogues à la grenouille, et ça, alors je peux décrire tout ça. Et ça fait quelque chose très descriptif. Très descriptif. Que si je suis un artiste, je peux faire ça merveilleusement en saisissant les types, en saisissant les caricatures. C'est pas la philosophie du vivant. La philosophie du vivant n'existe qu'au moment où je découvre la cause propre du vivant. Alors, je dois me poser la question. Quelle est la cause propre de ce vivant qui est l'homme? Eh bien, la question qui me fait entrer tout de suite dans la philosophie du vivant et qui me fait établir la philosophie du vivant distincte de la biologie. Alors, quelle est la cause propre de ce vivant qui est l'homme? Bon, je constate que dans l'homme, moi, l'homme, c'est moi. Mon laboratoire de philosophie du vivant, c'est moi, c'est pas mon voisin. Parce que mon voisin, je ne le saisis que de l'extérieur. Ah, je peux essayer d'écouter un peu ses réactions, mais je ne le saisis que de l'extérieur. Le seul que je saisis de l'intérieur, c'est moi. Mon voisin, je le saisis comme lorsqu'il se regarde dans la glace, de l'extérieur. Et donc, je ne peux que le décrire. Je peux en faire des caricatures, mais je ne peux que le décrire. Je ne peux pas saisir la cause propre de sa vie. Par rapport à moi, qu'est-ce que je constate? Faites l'inventaire de toutes vos opérations vitales. Depuis le matin à 6 heures jusqu'au soir à 11 heures. Parce que les ronflements du début de la nuit font partie de comportement vital, si vous en avez conscience. Pas. Alors vous avez toutes vos opérations vitales. C'est intéressant à faire. On peut faire ça tous. Hein. Pas besoin de regarder son voisin. Vous commencez à vous lever, à vous éveiller. Réveil. Réveil. Vous vous réveillez. C'est un phénomène très curieux, sur lequel Aristote insiste beaucoup. Nous y reviendrons constamment. Hein. Passer du sommeil au réveil. Chose très étonnante. Puis, sur des religions, un acte d'adoration. C'est pas la même chose que de se réveiller. Un acte d'adoration. Puis, on se met à marcher. C'est quand même un acte vivant, de marcher, se rendre au cœur. Alors là, je passe le petit déjeuner. C'est un acte aussi vivant. On fait ça. Religieusement, le petit déjeuner, c'est quand même quelque chose d'important, même si on n'est pas anglo-saxon, c'est important le petit déjeuner. Parce que ça réveille, hein. On a besoin de mettre du carburant, autrement la machine aura de la peine, puis on se met à travailler. Ou on nettoie sa chambre, sa cellule, un petit peu de travail manuel, et ainsi de suite. Vous réfléchissez, puis vous êtes pris subitement par votre imaginaire qui commence. Alors ça réveille, éveillé, c'est plus le cauchemar, ça rêve éveillé. Vous êtes pris par ça, puis vous dites non, il faut travailler. Venez, vous suivez des cours, vous pouvez dialoguer avec quelqu'un que vous aimez bien, vous dialoguez avec quelqu'un que vous supportez, n'est-ce pas? Et ainsi de suite, ça fait deux dialogues différents. Bon. Et ainsi de suite, dans toutes les diverses opérations, c'est multiple, hein. Le vivant est d'une complexité, tout ça c'est vous. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez Ça, c'est facile, c'est pas la peine d'insister. Complexité des opérations vitales, de mes opérations vitales. Est-ce que vous voulez de mes opérations vitales? Et ça, c'est très important de voir ça. Complexité. Et toutes ces opérations vitales, c'est moi. Ça, je peux très bien comprendre ça. Tout le monde peut comprendre ça. Je peux le décrire d'une façon phénoménale, d'une façon extraordinaire, en montrant toute la diversité de ces complexes, de ça. Même les oppositions, il y a des oppositions. C'est pas la même chose de rêver de travailler. Et quelquefois, j'aime mieux rêver. Parce que j'ai de la peine à travailler, j'ai la peine de me réveiller vraiment. Alors c'est tellement agréable de faire du planeur. C'est tellement agréable. Au-dessus de tout le monde. Consciemment, aujourd'hui, non, je suis fatigué. Le petit déjeuner était mauvais. Je suis incapable. Et ainsi de suite, on va très bien. En complexité de moi. Et puis de moi. Tout ça, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a donc? Il y a la multiplicité des opérations. La complexité, vous l'avez dit. Et l'unité. C'est ça qui est important à saisir. Ces opérations vitales sont multiples et diverses, et il y a l'unité. C'est moi. Je ne peux pas nier que quand je dors, c'est moi. La preuve, c'est que quand j'ai mal dormi, j'ai de la peine à travailler. Je ne peux pas nier que mon travail, c'est moi. Je ne peux pas nier que mon désir de contemplation, c'est moi. Mon désir d'adoration, c'est moi. Mon désir d'amour, d'amitié, c'est moi. Les rêves, c'est moi. C'est moi. Tout ça, c'est moi. Donc, il y a dans cette complexité une unité. Puisque ça se ramène à moi. Oui, c'est là où l'aspect, voyez, le moi cache, parce que ce que saint Thomas appellerait le suppôt ou la substance première. C'est ça, c'est ce moi. Il y a quelque chose qui ramène toute cette multiplicité à une certaine unité. À une certaine unité qui est difficile, qui n'est pas séparée de cette complexité. Alors je peux évidemment dire, oui, le moi peut se séparer complètement. Il ne peut pas se séparer. Mon moi, c'est quand je rêve. J'ai un moi rêveur. Mon moi, c'est quand je marche. J'ai un moi marchand. Mon moi, c'est quand je mange. Et ainsi de suite. Alors, décliner le moi, selon les choses. Et on voit très bien que de fait, c'est toujours moi dans ces diverses opérations. Donc le moi est immanent à la multiplicité. Il est présent dans la multiplicité. Et il se diversifie lui-même dans ses différents aspects. Mais je peux évidemment dire, attention, dans cette complexité, cette multiplicité, qui a l'unité, il y a un certain ordre. Il y a un certain ordre. Il y a des opérations que je considère beaucoup plus comme moi que d'autres. Est-ce que je suis plus moi dans mon rêve de planeur? Ou est-ce que je suis plus moi quand je mange mon petit déjeuner? Est-ce que je suis plus moi quand je pense et quand j'aime, ou quand je travaille? Il y a donc un ordre, et c'est pas si commode que ça, et cet ordre est différent selon chacun. On a comme une espèce de hiérarchie des diverses opérations qui est différente selon chacun. On voit différemment cet ordre, il n'est pas le même chez tous. Alors, je me pose la question. Pourquoi cet ordre, cette diversité, cette unité? Je pourrais très bien uniquement décrire et essayer d'ordonner. Mais si je veux comprendre, si j'ai le désir de comprendre, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette unité dans cette complexité? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un ordre dans cette multiplicité? D'où vient cet ordre? Quelle est la signification de cet ordre? Qu'est-ce qui va me permettre vraiment d'ordonner tout cela? Parce que si je reste uniquement à mon moi, le moi présent dans cette complexité, je n'arrive pas à ordonner pleinement. Je vois que pour l'un, le petit déjeuner prend une place énorme. La confiture, c'est extraordinaire. Ça met de bonne humeur toute la journée. Pour d'autres, planer un peu. Pour d'autres, le travail. Je suis tranquille que si je travaille. La conscience est bien faite. L'autre, la prière. C'est curieux, l'ordre n'est pas le même. C'est très curieux à faire ça. Il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce qui me permet d'être objectif dans cet ordre? Subjectivement, je sais très bien, l'ordre est différent. Mais qu'est-ce qui est objectif dans cet ordre-là? Pourquoi cela? Je me pose la question, pourquoi cela? Et c'est en posant la question que progressivement, je me dis qu'il y a nécessairement un principe d'ordre. Alors, philosophiquement, je le sais, que tout ordre implique un principe. Et quand je saisis un ordre existentiel, un ordre vital, que je peux saisir, et que je porte en moi, quand j'ai saisi ça, il faut nécessairement qu'il y ait une cause. Vous voyez, tout ordre implique un principe, tout ordre existentiel implique une cause. Il faut bien comprendre la différence entre le principe et la cause. Le principe, c'est dans l'ordre de l'intelligibilité, et la cause, c'est dans l'ordre existentiel, dans l'ordre de l'exister. Or, cet ordre, il est vécu. C'est un ordre vital vécu. Il faut donc nécessairement découvrir quelque chose qui est immanent à cet ordre, mais qui est source de cet ordre et qui est cause de cet ordre, puisque de fait l'unité est présente à cet ordre. Il y a une certaine unité. Mon moi psychique, mon moi qui a conscience de ces diverses opérations et qui prend conscience de ces diverses opérations n'est pas extérieur. Aucune de ces opérations, je ne peux les renier. Je ne peux pas renier le sommeil. C'est mon sommeil. On sait bien. Et quand vous dérangez quelqu'un dans son sommeil, c'est mon sommeil, hein, vous l'agressez. Il devient méchant. Parce que c'est son sommeil. C'est ma nourriture. Hein. C'est bien évident, droit de propriété, mon avoir. C'est mon travail. C'est ma pensée. C'est ma prière. Mon moi est présent dans tout ça, d'une façon très forte. Alors, je réfléchis petit à petit, je dis nécessairement. Alors c'est là où il y a induction. Une induction qui se fait à partir de cette interrogation, pourquoi cette unité dans cette multiplicité, pourquoi cette exigence d'un ordre, pourquoi cette multiplicité implique cette unité qui se ramène toujours à moi. C'est par cette interrogation que l'intelligence dépasse l'aspect descriptif, l'aspect du conditionnement, pour saisir la source cachée. Une cause est toujours une source cachée. Une cause, la cause propre de cette unité dans cette multiplicité. La cause propre qui permet de donner un ordre plus précis à cette harmonie qui existe dans cette multiplicité. Ce principe, je l'appelle l'âme. Parce que, de fait, les traditions religieuses me disent que dans l'homme, il y a une âme. Et selon les traditions religieuses, l'âme n'est pas autre chose qu'un principe de vie. Or, je saisis cette cause propre de ma vie, qui est à la source de toute cette multiplicité et de cette unité. Et je le saisis comme un principe immanent, pas extrinsèque. Comme une source jaillissante de vie. Donc vous voyez, c'est là où le philosophe se distingue du biologiste. C'est parce qu'il s'est posé la question du pourquoi de l'unité dans cette diversité. Parce que le philosophe ne peut pas abandonner l'homme dans sa propre vie. Il ne peut pas dire, ça ne m'intéresse pas. J'accepte que le biologiste uniquement étudie la diversité de ma morphologie, la diversité de mes opérations vitales. Le philosophe n'a pas le droit. Pourquoi ? Parce qu'il s'intéresse à l'homme. Et donc, il faut découvrir ce qu'il y a de particulier à l'homme en tant que vivant. À l'homme capable de poser une très grande diversité d'opérations vitales et en même temps qu'il y a l'unité. Il découvre, par l'induction, une source. Et comprenez bien, cela, chacun d'entre nous, nous devons le faire. L'induction est une opération personnelle que je ne peux pas recevoir d'un enseignement. Ce que je reçois d'un enseignement, c'est la manière dont nous situons pour induire. Mais l'induction est une chose qui ne peut pas se transmettre. Parce que l'induction touche la vitalité de l'intelligence. C'est l'intelligence qui veut dépasser l'aspect descriptif et multiple pour saisir une source. Alors, il faut comprendre comment mon intelligence peut découvrir ça. Par rapport à moi, je me pose la question alors, à ce moment-là. Y a-t-il une autre manière de connaître mon âme qui va pouvoir m'aider ? Parce que c'est très bien dire ça, mais c'est pas commode, hein ? Je sais bien, je vois bien comment ça doit se faire. Y a-t-il une autre manière de connaître mon âme ? Oui. C'est de comprendre que, dans ma réflexion, je peux saisir qu'il y a en effet deux problèmes qui sont toujours présents. Le problème du regard extérieur que j'ai sur moi. Je me regarde dans la glace. Une petite fille qui se regarde dans la glace. Vous voyez, ce matin, j'ai à Genève, cette chose merveilleuse, une petite que je connais depuis qu'elle est toute petite, qui est maintenant à 3 ans et demi, 4 ans. Après avoir pris son petit déjeuner, sans rien dire, elle va prendre son prix Dieu, puis se met à genoux devant la glace. Admirable, à genoux devant la glace. Et elle souriait. Le plus beau sourire que j'ai jamais vu chez elle, c'était pour elle. Il y a l'extérieur, puis il y a l'intérieur. C'est très très joli de voir ça, c'est magnifique. Évidemment, il faut me demander, le père certain de moi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pédagogiquement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut surtout pas se fâcher. Il faut essayer de comprendre qu'il y a peut-être autre chose. Pas aller trop vite, hein. Le sevrage de la glace ne doit pas se faire trop vite. Parce qu'il faut comprendre que c'est vrai. Un petit plaisir de se regarder. Mais si ça continue, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux si ça continue. Quand le père est venu la prendre par les bras, elle continue de regarder la glace. Alors elle se regardait dans les bras de son père. C'était encore mieux que sur le prix Dieu, n'est-ce pas ? Alors elle continue de se regarder. Mais il y a deux choses, un regard extérieur sur nous, un regard intérieur. Et ce regard intérieur me permet de comprendre qu'il y a en moi quelque chose de profond, une connaissance de mon intériorité. La connaissance de mon intériorité me donne une connaissance affective de mon âme. Si je reste uniquement dans l'affection que j'ai de me regarder dans la glace, je reste à l'extérieur. Comme le petit chat qui se regarde à l'extérieur sur la glace. Parce que le petit chat a la même impression quand il se regarde dans la glace. Un petit chat, un tout petit chat. Je crois qu'il y a déjà beaucoup d'expérience, ça ne l'intéresse plus. Mais un tout petit chat qui se regarde dans la glace, c'est très extraordinaire. Hein. Faire cette expérience, amener un petit chat près d'une glace, vous voyez. Et une petite fille qui se regarde dans la glace, un petit garçon qui se regarde dans la glace, même phénomène. C'est bon de regarder ça parce qu'il faut se dépasser. Hein. Et quelquefois, on continue de se regarder dans la glace toute sa vie. C'est ennuyeux. Parce qu'à ce moment-là, l'extérieur l'emporte sur l'intérieur. Et il y a une connaissance affective de l'âme qui se fait par cette connaissance que nous avons de notre intériorité. À ce moment-là, nous comprenons que ce principe, cette cause propre du vivant que nous avons posé, que nous appelons l'âme, elle est présente à toute notre vie intérieure. Et c'est elle qui est source de toute cette vie intérieure. J'ai donc deux connaissances de mon âme. Et ça, c'est très important. J'ai deux connaissances de mon âme. J'ai la connaissance proprement philosophique, et puis j'ai une connaissance affective. Alors c'est intéressant de voir que toute ma philosophie du vivant commence tout de suite par cette double connaissance. Une connaissance d'intériorité affective et une connaissance philosophique par induction. Alors, ça me fait comprendre que le néoplatonicisme de Plotin, qui prend toujours deux voies d'accès pour la connaissance, reste au niveau de la connaissance de l'âme. Il y a une part de vérité dans le néoplatonisme au niveau du vivant. Parce qu'au niveau du vivant, c'est vrai, j'ai toujours deux sources de connaissance. Une connaissance dite objective et une connaissance dite affective. La connaissance affective, c'est la connaissance d'intériorité que j'ai de cette présence de mon âme à moi-même. Et la connaissance dite objective, c'est l'induction. Il faut toujours comprendre que ces deux connaissances sont nécessaires. L'une corrige l'autre. La connaissance affective a ceci de merveilleux, c'est qu'elle est immédiate. Mais elle reste confuse. La connaissance objective a ceci de merveilleux, c'est qu'elle précise la découverte d'une cause. Mais elle implique une certaine abstraction. Elle n'est plus immédiate. Elle est plus profonde. Elle me met vraiment en présence d'une source. Mais cette source, je la saisis comme un principe. Donc comme quelque chose, j'allais dire, de lointain. Tandis que l'autre, c'est immédiat. Alors c'est intéressant de voir que je saisis la même réalité qui est l'âme selon ces deux avenues. Et je verrai que de fait, si je suis uniquement un être affectif, je mettrai tout le poids sur cette connaissance affective de l'âme et j'aurai tendance d'oublier l'autre. Si je suis au contraire un être qui cherche avant tout le point de vue d'une connaissance précise, je mettrai tout le poids sur l'induction et je risquerai de perdre un peu l'autre aspect. Il y a un équilibre à saisir tout de suite qui est très propre à la philosophie du vivant. On se demandera si à travers toute la philosophie du vivant, j'ai ces deux types de connaissances. Ce qui me fait comprendre que la méthode de la philosophie du vivant a quelque chose de tout à fait particulier. Il y a une méthode propre, je ne peux pas faire ça pour la nature. Je ne peux pas faire ça pour la métaphysique. Je n'ai pas de connaissance affective de l'être. C'est bien dommage. Je n'ai pas de connaissance affective du devenir. J'ai une connaissance affective uniquement de mes opérations vitales. Parce qu'elles sont miennes. Tout ce qui est mien est saisi en premier lieu affectivement. C'est ça l'affectivité. Hein. C'est de saisir en premier lieu ce qui est mien. Mes opérations vitales. Mais mes opérations vitales me conduisent à une connaissance plus objective qui se fait par l'induction. Alors ça, c'est la grande question. La méthode se fait progressivement. C'est selon la découverte. Je vois qu'en effet, il y a deux voies d'accès tout à fait particulières. Deux voies d'accès. Réfléchissons. Ces deux voies d'accès sont-elles suffisantes? Cette voie d'intériorité, cette voie objective par l'induction, sont-elles suffisantes? Pour cela, il s'agit de réfléchir sur le caractère propre de cette cause propre que j'ai saisie, que j'appelle l'âme. Est-ce que cette cause propre, qu'est-ce qu'elle est? Comment je la saisis? Je la saisis à partir de l'interrogation d'où vient l'unité de mes opérations vitales. Je la saisis donc en premier lieu comme ce qui est source de toutes mes opérations vitales. Donc comme une cause efficiente de toutes mes opérations vitales. C'est vrai. La première chose que je saisis de là, c'est qu'elle est cause efficiente. C'est pour ça que j'ai dit instinctivement source. Et cette cause efficiente, elle se fait à travers ce que j'appelle le corps. Je n'ai pas besoin d'induire le corps.